Ernest Daudet, le roman de Delphine. Parmi les hôtels qu'on trouve sur le côté gauche de la rue Lafitte, en allant du boulevard à Notre-Dame-de-Lorette, il en est un remarquable entre tous, par ses belles proportions architecturales et par les sculptures fouillées dans sa façade. Il appartenait, il y a 20 ans, au banquier Jacques Savaron. Cet hôtel se compose de 2 grands corps de logis séparés par une vaste cour. Dans le premier, qui s'étend sur la rue, était installé le bureau du célèbre financier. Le second, situé entre la cour et un jardin rasé depuis, lui servait d'habitation. On ne saurait souhaiter une demeure plus somptueuse. Tout ce que les hommes ont inventé pour rendre l'existence confortable, luxueuse, pour aider aux aises du corps et flatter les yeux, se trouvait dans cette maison. Merveille de l'industrie de l'ameublement, chef-d'œuvre de l'art, tableaux, statues, bronzes, tapis, plantes rares, tout s'étalait comme à profusion. Il suffisait de mettre le pied sous ce toit favorisé par la fortune, pour deviner que celui qui l'habitait n'avait plus rien à désirer des félicités matérielles et qu'il avait épuisé tous les plaisirs. C'est dans une vaste pièce de l'hôtel Savaron que nous introduisons nos lecteurs. Il est 5 heures de l'après-midi. Le jour baisse rapidement, si rapidement qu'au moment où commence ce récit, un valet de pied vient d'apporter plusieurs lampes qu'il a déposées, l'une sur un vaste bureau couvert de papier, l'autre sur un guéridon et la troisième sur un fût de colonne. Ces lampes, par la manière dont elles sont placées, distribuent habilement leur clarté. Tout est dans l'ombre et cependant tout se voit. C'est que cette ombre est un demi-jour. Elle permet d'admirer une merveilleuse et artistique garniture de cheminée, de compter les fleurs grises du tapis blanc qui s'étend sur le parquet, d'embrasser d'un regard les meubles anciens qui garnissent cette pièce, de comprendre enfin que l'on est chez un des heureux de la terre, dans une de ces demeures au seuil desquelles la misère s'arrête et où les peines de la vie semblent avoir moins d'âpreté qu'ailleurs. Un homme marchait seul dans cette salle. C'était Jacques Savaron. La banque Savaron et fils faisait partie de ce petit groupe d'établissements financiers dont la renommée, au double point de vue de la puissance et de la probité, s'étend dans le monde entier. Sa fondation remontait aux premières années de ce siècle. Jacques Savaron l'avait reçu des mains de son père, s'était appliqué et était parvenu à en développer la prospérité. Il espérait la léguer à son fils unique, Karl, élevé surtout en vue de la lucrative et brillante carrière à laquelle on le destinait. Jacques Savaron touchait à sa 68e année, mais l'âge n'avait pas affaibli ses facultés. Il ignorait les infirmités de la vieillesse, possédait la force du corps et la lucidité de l'esprit. Il était d'une taille élevée, bien prise. Il portait le front haut avec un regard clair, ferme et bon, des cheveux blancs comme sa moustache, coupés très ras ainsi que ceux d'un soldat. Empreinte d'affabilité, ses manières comme son accent séduisaient, exerçaient un charme véritable. Il souriait volontiers, comptait de nombreux amis, ce qui est la preuve d'une nature heureusement douée et d'un cœur généreux. Mais sous ces formes douces, en quelque sorte moelleuses, se cachait une volonté indomptable, une énergie de fer. Aussi ceux qui vivaient avec lui se plaignaient-ils parfois de son despotisme. Sa femme, morte en donnant le jour à Karl, n'avait pas échappé, bien qu'il fût éperdument aimé, à la tyrannie de ce caractère indomptable. Jacques Savaron n'avait pas une seule mauvaise action à se reprocher. Il pouvait au contraire se vanter d'avoir accompli quelques biens. Mais nul n'était en état de dire jusqu'où s'étendait sa charité, car nul, pas même son fils, ne participait au secret de ses bienfaits. Ce fils, unique souvenir d'une union heureuse, se nommait Karl, nous l'avons dit. Il l'adorait. Et cependant Karl, élevé sévèrement, ressentait encore devant son père, bien qu'il eût 24 ans, les mêmes craintes que lorsqu'il était petit. Mais il sera temps d'en parler tout à l'heure. C'est actuellement le père qui nous occupe et non le fils. Donc Jacques Savaron marchait à pas lents dans son cabinet, la tête courbée, le front pensif, les yeux à demi clos, pliés sous le poids de ses réflexions. Quelle préoccupation l'absorbait? S'agissait-il de l'un des intérêts immenses qui attendaient de lui une solution? S'agissait-il d'un emprunt d'État, d'une opération de bourse, d'un paiement à effectuer le lendemain? À tout instant se succédaient les employés des divers services. Le chef de la correspondance voulait une signature. Le caissier désirait savoir s'il devait faire honneur aux lettres de crédit d'un correspondant étranger qui venait d'être présenté à l'improviste. Et sur toutes ces choses, Jacques Savaron prononçait d'un ton calme, comme un général qui connaît tous les secrets du champ de bataille sur lequel il manœuvre. Néanmoins, il n'était pas difficile de deviner que, même au milieu de ce mouvement à travers lequel il passait sans en être troublé, une pensée maîtresse dominait toutes ses préoccupations. Cela devint visible surtout quand, fatigué du va-et-vient perpétuel qui dérangeait ses méditations, il s'écria en s'adressant à l'huissier de son cabinet « Je n'y suis pour personne, Bernard, pour personne, entendez-le bien !» L'huissier s'inclina et allait se retirer. Jacques Savaron le retint et ajouta « Vous allez trouver sur le champ le valet de chambre de mon fils. Vous lui ferez savoir que M. Karl part ce soir pour un voyage de 3 mois et qu'il l'accompagnera. Vous lui donnerez en même temps de ma part de préparer les malles de son maître. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut que ces préparatifs soient terminés dans 2 heures. Allez vite !» Ces instructions données, Jacques Savaron demeura seul. Alors, se plaçant devant son bureau, il murmura « Le sacrifié est cruel pour moi, l'épreuve sera terrible pour lui, mais il le faut. » Le langage qu'il se tenait à lui-même fut en ce moment interrompu par le bruit d'une porte, par une voix fraîche et sonore, qui s'écria « Bonsoir, mon père, dînez-vous ici ce soir ?»« Ben, sans doute, et toi aussi, j'espère. » « Oui, c'est cela, et nous irons ensuite à l'opéra. »« À l'opéra ?» objecta brusquement Jacques Savaron. « Non, je n'irai pas, mais tu n'iras pas non plus, mon enfant. »« Vous avez disposé de ma soirée ?» demanda Karl en riant. « Oui, j'en ai disposé. Tu pars ce soir pour les Indes. »«
Je pars ?»«
Oui, ce soir, » répéta Jacques Savaron, sans se laisser troubler par la surprise de son fils. Karl regardait son père sans comprendre. « Ta place est retenue à bord du Ninus, qui prend dans la mer dans 36 heures. Tu n'as donc que le temps d'arriver à Marseille. » En ton absence, j'ai donné des ordres à ton valet de chambre qui t'accompagnera durant ce voyage. Tes malles doivent être prêtes.
Mais c'est impossible, s'écria Karl, que le sang-froid de son père exaspérait. Mais comment, je suis là tranquille, sans m'attendre à rien de semblable, menant ma vie à ma guise, formant des projets pour demain, et brusquement. Vous m'annoncez qu'il faut partir sans me donner le temps de me retourner. Mais m'expliquerez-vous du moins pour quelle cause?
La cause, oh, elle est bien simple.
J'ai reçu de nos correspondants de Bombay des nouvelles très graves, relativement aux affaires d'opium que nous avons commanditées. La présence de la noue est indispensable là-bas. Moi, j'y peux aller, c'est donc à toi de me suppléer. Oh, il serait trop long de t'expliquer maintenant ce que tu auras à faire, mais voici un dossier contenant les lettres que j'ai reçues. Tu les liras en route, ainsi que les instructions que j'y ai jointes, et tu seras au courant de la situation. » En écoutant son père, Karl était devenu très pâle. Ses mains tremblaient nerveusement et de grosses larmes s'amassaient au fond de ses yeux. « Mais ne pourrais-je remettre mon départ au prochain courrier ?» demanda-t-il. « Impossible, » répondit froidement Jacques Savaron. « C'est par celui-ci qu'il faut partir. » Karl connaissait le caractère entier, résolu, décidé de son père. Il n'ignorait pas que le banquier ne revenait en aucun cas sur une volonté exprimée. Jamais il n'avait tenté de lui résister, sachant bien que ce vieillard était homme à employer la violence, même contre lui, pour se faire obéir. Mais ce jour-là, ce projet de départ troublait si profondément son existence qu'il voulut essayer ce qu'il n'avait jamais essayé. Et ne pourriez-vous envoyer quelqu'un à ma place? Il nous sera cruel à l'un et à l'autre de nous séparer pour si longtemps. Et puis il y a divers intérêts qui nous sont chers, dont je suis spécialement chargé, et qui nécessitent ma présence à Paris. Je les ferai surveiller. Quant à ton idée d'envoyer quelqu'un à ta place, elle est inadmissible. C'est l'œil du maître qu'il faut là-bas. Mais reconnais que nous aurons quelque peine à demeurer loin l'un de l'autre. Mais ton absence ne sera pas de longue durée, et pour moi, je m'y résignerai en songeant après coup que tu fais un admirable voyage dans des conditions charmantes, que tu trouveras de très nombreuses distractions, et qu'il y ait enfin beaucoup de jeunes gens qui voudraient être à ta place. Ben oui, ils ne sont pas amoureux, s'écria Karl, dont la force était épuisée, et qui se laissa tomber sur une chaise, le front dans ses mains. « Amoureux ?» demanda Jacques Savaron en regardant son fils d'un air singulier, et comme s'il eût ignoré ce que celui cri venait de lui révéler. « Amoureux, et c'est pour une femme que tu hésites à te charger des graves intérêts ?»« Oh, mon père, » interrompit Karl, ce ne sont que des intérêts d'argent, tandis que les autres sont les intérêts les plus chers de mon cœur. Il ne s'agit pas, comme vous pourriez le supposer, d'une liaison sotte et vulgaire. Je ne vous en aurais même pas parlé. Il s'agit d'un grand et noble amour, d'une jeune fille que j'ai jugée digne de devenir ma femme, qui sera ma femme, car lorsque vous la connaîtrez, vous penserez comme moi. Un sourire bienveillant apparut sur la physionomie ridée de Jacques Savaron. Il s'approcha de son fils, lui mit la main sur l'épaule et avec l'accent d'une vive tendresse, il lui dit « Mais mon enfant, je ne vois pas en quoi le voyage auquel je te condamne peut te désespérer. Et puisqu'il me sépare de Delphine, Il t'en sépare, mais seulement pour 3 mois. Je pense bien que tu n'auras pas l'intention de te marier demain, alors surtout que tu n'as pas encore consulté. » Karl fut touché par les paroles de son père. Il se reprocha de n'avoir pas osé jusqu'à ce jour lui avouer la vérité, et le voyant si bien disposé, voulant aussi, avant de partir, placer sous sa protection celle qu'il aimait, il résolut de ne lui rien plus cacher. Aussi, le prenant familièrement par la taille, il l'attira vers soi, l'embrassa et lui dit « Vous souhaitez que je parte. Votre désir est un ordre pour moi. Je partirai. Mais permettez-moi seulement de vous faire connaître avec brièveté ce qu'est celle que j'aime, afin que vous puissiez vous intéresser à elle, et que si, en mon absence, elle avait besoin d'un protecteur, vous la jugiez digne d'être protégée par vous.
Oh, je sais déjà qu'elle se nomme Delphine, fit Jacques Savaron en s'asseyant pour écouter le récit de son fils.
Oui, mon père, Delphine Vaubert.
Comment et où l'as-tu connue?
Oh, ceci est toute une histoire. Je l'ai connue chez vous.
Chez moi?
Mon Dieu, oui. Parmi les solliciteurs dont tous les matins vos antichambres sont encombrées.
Et cette intéressante jeune personne venait solliciter quoi?
Bon, ce n'est pas elle qui demandait, mais son père, un inventeur. Il avait trouvé le moyen, disait-il, de diriger les ballons. Il cherchait, pour mettre son invention en pratique, 50 000 francs.
Bon, j'espère bien que tu ne lui as pas prêté, objecta Jacques Savaron.
Non, mon père, non, répondit Karl en rougissant. Mais c'est en étudiant avec lui l'affaire qui l'intéressait que j'ai connu sa fille, celle que j'aime aujourd'hui, et que je l'ai connue dans des circonstances que je vous demande maintenant la permission de vous raconter.
Tandis que Karl Savaron raconte à son père l'histoire de Delphine Vaubert, en l'enjolivant ainsi que doit le faire un amoureux qui parle de celle qu'il aime, nous la raconterons en ne demandant qu'à la vérité seule les éléments de ce récit. Dans le courant du mois de juillet 1800, un ballon parti de Montargis opéra sa descente à Blois, sur la rive droite de la Loire, à quelques pas du domicile de Martial Vaubert, professeur de mathématiques au lycée de cette ville. L'aéronaute, ayant eu à lutter contre le vent, était exténué. Martial Vaubert lui offrit l'hospitalité, le fit asseoir à sa table et, pendant le repas qui dura longtemps, prit un singulier plaisir à s'entretenir avec lui. Le professeur était âgé de 62 ans. Sa physionomie était fine et bienveillante, son regard doux, profond, éveillé. Grand, fort, avec des épaules légèrement voûtées, toujours rasé de frais et cravaté de blanc, il portait le plus souvent une longue redingote noire, boutonnée, et un chapeau à large bord qui le faisait reconnaître à distance par ses élèves et par les gens de son quartier auxquels la dignité de sa vie avait inspiré un profond respect pour sa personne. Marié tard, il était resté veuf après quelques années d'une union fortunée dont il ne pouvait parler sans larmes et de laquelle était née une fille. Élevée avec un soin jaloux, Delphine Vaubert était à 20 ans, d'une merveilleuse beauté, faite pour exercer autour de soi une séduction irrésistible. Nous ne la peindrons pas autrement. La suite de ce récit le fera mieux connaître que nous ne saurions le faire actuellement. Uniquement préoccupé de l'avenir, Martial Vaubert se flattait de l'espoir de la marier un jour à un honnête homme qui l'aimerait et ne l'éloignerait pas des lieux où elle avait grandi. Tous les matins, le professeur quittait sa fille pour aller faire son cours. Lorsqu'il revenait pour déjeuner avec elle, il la trouvait fraîche, parée, empressée à le recevoir, et il bénissait Dieu qui avait réservé à sa vieillesse laborieuse de si pure, de si grande joie. Le professeur et sa fille vivaient beaucoup chez eux. Ils se suffisaient. Le cercle de leur relation était fort restreint. Ils n'avaient jamais songé à se plaindre de la solitude de leur vie. Les soins de la maison, l'étude, la musique absorbaient les jours de Delphine, et il ne semblait pas que, dans la médiocrité de son existence, elle eût rien à regretter. C'est dans ces circonstances qu'arriva l'événement qui vient d'être signalé.
L'aéronaute partit, Martial Vaubert devint rêveur. Sa nuit fut sans sommeil. Le matin venu, il était résolu à se vouer à la recherche des moyens propres à diriger les ballons dans les airs. Et à dater de ce jour, sa vie fut toute désorganisée. Il commença par consacrer ses loisirs à fabriquer une foule de petits ballons. Il y en avait de toutes les couleurs, les uns en soie, les autres en papier. Ce qui fut employé de fil pour coudre les uns, d'amidon pour coller les autres, on ne le saura jamais. Mais on ne sera pas étonné d'apprendre qu'au bout de 8 jours, tous les arbres du jardin de Martial Vaubert étaient couronnés de débris de papier et de lambeaux d'étoffe. D'abord, on pouvait croire que ce n'étaient là que des épouvantails destinés à éloigner les oiseaux qui faisaient des fruits leur peinture habituelle. Et les voisins le crurent ainsi. Ils louaient l'adresse du vieux professeur qui était parvenu à préserver ses pêches et ses cerises contre les maraudeurs du ciel. Mais bientôt, les feuillages disparurent sous une énorme quantité de petits drapeaux qui transformait tous les arbres du verger en véritables arbres de Noël, tels qu'on en voit en Angleterre et en Allemagne, et auxquels il ne manquait que des joujoux. C'est que les ballons que le professeur envoyait dans les airs pour expérimenter les effets du vent ne s'élevaient pas au-delà de quelques mètres. Il rencontrait les branches, s'y accrochait tranquillement en refusant de monter plus haut. « Bref, il faudra bien qu'il se décide à partir », se disait Martial Vaubert, sans se décourager. Quand il eut employé à cet usage environ 40 mètres d'étoffe de soie et plusieurs rames de papier du plus grand format, Delphine se permit quelques critiques. « Autant de beaux taffetas déchiquetés, ainsi, s'écria-t-elle, mais n'est-ce pas à faire pitié ?» On en ferait de si belles robes. Des robes, tu en auras, fillette. C'est pour t'en donner que je travaille. S'il réussit dans l'œuvre que j'ai entreprise, ta fortune sera faite. Ma fortune? Mais sans doute. Suppose que mes efforts soient couronnés de succès. De tous côtés s'organisent des messageries aériennes. Les chemins de fer sont enfoncés. Nous lançons dans l'espace des trains de voyageurs. Nous nous enlevons 100, 200 à la fois. Nous traversons les mers en bravant les tempêtes. En quelques heures, nous allons de Paris à Constantinople, de New York à Pékin. J'exploite mes inventions, je gagne de l'argent, je te dote, j'ai par-dessus le marché la satisfaction de voir mes contemporains m'élever des statues. « Oui, mais en attendant, nous risquons de mourir de faim, » ajouta Delphine avec un soupir. Martial Vaubert n'avait jamais été riche. Son traitement de professeur constituait le plus clair de son revenu. Or, à voir avec quelle négligence, depuis qu'il s'était lancé dans le domaine des découvertes, il remplissait ses fonctions, il était permis de craindre qu'il ne provoquât quelques graves mesures à son égard. Il ne se rendait que très irrégulièrement au lycée. Le proviseur se plaignait, non sans cause, et à plusieurs reprises, il écrivit des lettres sévères qui n'échappèrent pas à l'œil vigilant de Delphine. Un soir, Martial Vaubert entra plus gai que de coutume, et il dit à Delphine d'un ton dégagé, « Fillette, j'ai donné ma démission !» Elle devint très pâle. La nuit, dans un rêve, elle avait vu le spectre de la misère prendre en maître possession de la maisonnette où elle était née, où elle avait grandi, heureuse jusqu'à ce jour. « Votre démission ? » fit-elle. « Mais dans 6 mois, vous auriez eu droit à votre retraite. »« Oui, sans doute, mais 6 mois, c'est bien long. J'ai besoin de tout mon temps pour me livrer à mes expériences. » « Entre elle et ma place, je devais choisir, mais je n'ai pas hésité. » Mais qu'allons-nous devenir? Murmura Delphine. Bien, nous allons partir pour Paris, répondit Bobert fièrement.
Pour Paris?
Oui, là seulement je trouverai des capitalistes pour seconder mes recherches, pour m'aider à exploiter mes découvertes. Vois-tu, mignonne, l'argent, c'est le nerf de l'intrigue. Figaro l'a dit. C'est la clé de tout. À Paris, je me rencontrerai avec des camarades devenus riches. Ils seront heureux de payer une affaire au bout de laquelle il y a sûrement la fortune et la gloire.
Il parlait avec une conviction si profonde que Delphine n'eut pas le courage de le combattre. D'ailleurs, le mal était sans remède. La démission donnée. Il ne fallait plus songer à revenir sur cet acte si légèrement accompli.
« Mais quand partons-nous » demanda-t-elle.
« Dans 8 jours. »
8 jours après, en effet, ils arrivaient à Paris et s'installaient dans un modeste logement aux Batignolles. À cette époque décisive de sa vie, Delphine, on le sait, avait 20 ans. Tous les charmes de son âge, la beauté, la grâce et l'éclat. Au premier abord, sa physionomie révélait la douceur, la bonté. Mais en examinant mieux, on pouvait lire dans son fier regard des ardeurs peu communes et l'expression d'une volonté indomptable. Elle était grande, bien prise, avec quelque chose de viril, de résolu, qui éclatait parmi les grâces féminines de sa personne et leur donnait une saveur particulière. On eût dit d'un lac calme à sa surface, mais troublé dans ses profondeurs. Delphine n'était point une nature vulgaire. Esprit ferme, cœur généreux, elle eût été faite pour apporter partout avec elle le bonheur et le charme, s'il n'avait germé en elle une chaude ambition que le spectacle de Paris déchaîna tout à coup. Sous la monotonie de sa vie, elle dissimulait un âpre désir de devenir riche, d'avoir sa place marquée au premier rang dans le monde. Elle se sentait digne d'une situation plus haute que celle qui lui était dévolue. Elle aimait le luxe, toutes les élégances. Elle connaissait sa beauté et n'en aurait pas le pouvoir. Une fois à Paris, elle voulut sortir tous les jours. Elle admira dans les rues les magasins aux étalages brillants. Sur les boulevards, les jeunes élégants, qui semblent destinés à plaire à toutes les femmes. Dans les allées du bois de Boulogne, de belles personnes appartenant à toutes les sociétés, à tous les mondes, enfouies dans leurs voitures doublées de satin et de velours. Ce spectacle la frappa vivement. Elle en fut comme éblouie, et alors, ces paroles de son père se présentèrent à son esprit. « Si les expériences auxquelles je me livrerai réussissent, nous serons riches. » Riches, c'est-à-dire qu'elle pourrait se jeter dans le mouvement fiévreux de la vie parisienne, avoir sa place parmi les reines de la mode et de la beauté dont elle enviait le sort. Et son père se faisait fort de lui donner la fortune qu'elle souhaitait. Elle se prit à l'admirer. Elle le jugea autrement qu'elle ne l'avait jugé quand ils habitaient la province. « Après tout, se disait-elle, c'est peut-être un homme de génie, mon père. » Un soir, elle l'interrogea afin de savoir où il en était. « J'avance, ma petite, j'avance. »
« Mais qu'attendez-vous donc pour lancer votre invite sans votre invention ?»«
Ce que j'attends, la possibilité de construire mon appareil. » Puis je te ferai manœuvrer moi-même devant les Parisiens éblouis. Oh, je partirai du haut des tours de Notre-Dame pour m'aventurer dans l'espace, et l'on me verra naviguer tranquillement dans les airs. »
En parlant ainsi, Martial Vaubert s'exaltait comme s'il était déjà dans la réalisation de ses rêves. Sa fille l'embrassa. Il reprit.
Oh, ces expériences seront fort coûteuses. L'appareil seul vaut 10 000 francs. C'est la difficulté de trouver cette somme qui retarde le résultat définitif. Hélas, vous ne la trouverez jamais, murmura Delphine. Jamais, allons donc, mais j'ai déjà vu des banquiers. J'ai de l'espoir. L'un d'eux m'a écouté avec attention. Il m'a engagé à mettre tous mes plans en ordre, à les lui présenter avec des devis et des pièces justificatives. 3 mois après. Non, 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 non. 3 jours après. Numéro 2. 3 jours après, Martial Vaubert, en rentrant après une absence de plusieurs heures, dit à sa fille d'un accent plein d'émotion: Oh, je crois que je touche au but. Demain matin, l'un des banquiers à qui je me suis adressé doit venir me voir. Comment se nomme-t-il? Carl Savaro, de la maison Jacques Savaro et fils, répliqua Martial Vaubert qui se frottait les mains. On devine ce qui s'était passé. Martial Vaubert, s'étant présenté chez Jacques Savaron, avait été reçu par Karl. Et Karl, intéressé par la naïveté et l'ardeur du vieil inventeur, avait promis de l'aller voir, de lui venir en aide s'il jugeait l'opération pratique. Et le lendemain, il se présentait chez l'ancien professeur. Lorsqu'il entra dans le petit salon où elle se tenait avec son père, Delphine fut comme éblouie. Son cœur se mit à battre, un tic-tac précipité. Le nouveau venu prenait d'un seul coup dans sa vie une place si grande qu'elle en était stupéfaite. En l'entendant annoncer, elle avait rêvé un homme entre deux âges, ayant pour piédestal un sac d'écus, pour auréole une couronne de pièces d'or, dans chaque main des liasses de billets de banque. Même sous cet aspect, sa présence devait être douce à un cœur ambitieux. Mais elle le vit apparaître, et ses sentiments se transformèrent. C'est que Karl avait 26 ans, une chevelure brune, des yeux noirs, une taille de héros, et l'une de ces physionomies qui charment d'une manière soudaine et captive souverainement. Quant à lui, son impression fut analogue. Ce fut le choc de deux êtres destinés à être un jour tout l'un pour l'autre, et qui peut-être, au moment où pour la première fois ils se rencontrent, en ont le pressentiment. Tandis que Martial Vaubert, empressé à recevoir Karl, se mettait à l'entretenir de son invention, celui-ci jetait du côté de Delphine des regards furtifs. Cette beauté radieuse l'attirait. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas connu l'amour véritable. À cause de son nom, de sa fortune, plus encore qu'à raison de sa jeunesse et de sa fière beauté, où il avait rencontré sur son chemin des liaisons faciles, et l'impression que lui causait Delphine était tout autre que celle qu'il avait ressentie jusque-là. Elle se présentait à ses yeux dans une auréole de pureté qui donnait à toute sa personne un charme invincible. Que dire encore et à quoi bon insister? Le résultat de cette première entrevue, on le sait déjà. Quand, après un long entretien, Karl quitta la maison de Martial Vaubert, il était engagé vis-à-vis de ce dernier à lui venir en aide. Et il aimait Delphine. Il l'aimait follement et voulait l'épouser, uniquement préoccupé du moyen par lequel il arriverait à faire accepter à son père, dont il connaissait les projets ambitieux en ce qui touchait son établissement, la pensée de voir entrer dans sa famille, au lieu d'une héritière opulente, une jeune personne pauvre, inconnue. Le lendemain, Martial Vaubert était autorisé à toucher à la caisse de la banque Savaron une somme de 5 000 francs qui devait aider la préparation de ses premières expériences. Il alla lui-même retirer les fonds, accompagné de sa fille. Comme il sortait de l'hôtel du banquier, fier, heureux, les poches pleines, Karl se trouva sur leur passage. « Oh, mon jeune ami !» s'écria l'inventeur. « Oh, je vous entrerai dans une admirable affaire dont les bénéfices sont incalculables.
« Mais je n'y ai pas songé, répliqua Karl. J'ai cédé d'abord au désir de vous obliger. »
En parlant ainsi, il osa regarder Delphine. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle comprit tout. À ce trait, elle avait deviné l'amour. Ses sensations furent délicieuses. Quelques semaines plus tôt, elle avait entrevu la misère entrant dans sa maison, s'installant à son foyer, s'attachant à elle, pesant sur toute sa vie. Et maintenant, elle se voyait échappant à ses périls, et celui dont la générosité accomplissait ce miracle possédait les privilèges qui rendent un homme digne de tendresse. Ce jour-là, Delphine rentra dans sa maison, heureuse, transfigurée, pleine de l'image de Karl Savaron, auquel elle songeait avec un attendrissement que l'espoir de le revoir remettait d'un charme infini. Oh, les saintes et douces émotions du premier amour! Que ceux qui les ont goûtées osent dire qu'il en est de meilleures, de plus nobles, de mieux faites pour jeter dans une vie idéale les hommes qui s'y livrent avec l'ardeur d'un cœur jeune et d'une âme loyale. Les deux jours qui suivirent, Karl les passa, livré à une émotion indescriptible. Il eut cependant la force de la cacher à son père. Il n'osait lui avouer la vérité. Il redoutait un courroux ou l'explosion d'une colère qui eût troublé son bonheur et compromis l'avenir. Il comprenait bien que c'était lentement, peu à peu, qu'il fallait provoquer le consentement sans lequel il ne pouvait rien. Il se réservait, dès que les premiers essais de Martial Vaubert auraient réussi, de le présenter au banquier. Il ne désespérait pas d'intéresser ce dernier au sort de ce vieux savant, de lui faire connaître Delphine et de préparer de la sorte et peu à peu les choses pour les amener au résultat qu'il souhaitait. Le caissier, lui ayant demandé à quel compte il fallait inscrire la somme remise à Martial Vaubert, « À mon compte, répondit Karl, sans se rappeler que son père avait la coutume de procéder lui-même une fois par mois à l'examen des livres de sa maison. En 48 heures, il était devenu un autre homme. Plus rien de ce qui l'intéressait naguère ne l'intéressait plus. On cessa de le voir au bois, à son cercle, et le vieux Jacques Savaron constata qu'à l'heure des repas, son fils demeurait triste et silencieux. Il crut à l'existence de quelque amourette contrariée, et comme il fermait volontiers les yeux sur ce qu'il appelait les galantes distractions de Karl, il ne s'en inquiéta pas autrement. Poussé par l'amour auquel il résistait autant qu'il le pouvait, c'est-à-dire fort peu, Karl Savaron se trouva un jour devant la porte de la maison de Martial Vaubert. Naturellement, ses pas l'avaient porté de ce côté. Il monta, on le reçut. Delphine était seule, c'était une occasion inespérée. Il résolut d'en profiter. « À quel heureux hasard dois-je l'honneur de vous voir, monsieur ?» demanda Delphine, qui n'était pas moins troublée que lui. « J'espérais rencontrer votre père. Je voulais savoir s'il est déjà mis à l'œuvre pour hâter ses expériences. »« Oh, il n'a pas perdu de temps. Il travaille avec acharnement. » Ayant dit ces mots, Delphine baissa les yeux, demeura silencieuse. Elle ne laissait pas d'être très émue. Elle pressentait quelque chose de grave. Elle ne se trompait pas. « Tenez, mademoiselle, » s'écria Karl tout à coup. Bon, « il m'est impossible, puisque je vous rencontre seul, de vous taire ce qui est au fond de mon cœur. »« Vous avez à me parler ?» demanda-t-elle avec bienveillance et douceur.
comme pour encourager les confidences de son ami. Il hésita pendant quelques instants, puis il dit
« C'est ce que j'ai à vous faire connaître ne s'exprime pas facilement, » répondit Karl. « Mais si vous ne m'aidez pas... »«
Mais comment pourrais-je vous aider alors que j'ignore de quoi il s'agit ?»«
Mais n'avez-vous pas deviné ?»«
Mais quoi donc ?»«
Mais n'avez-vous pas deviné que je vous aime ?»«
Oh, si vous n'avez pas compris, c'est que votre cœur... »
Elle l'arrêta d'un geste.
« Oh, taisez-vous, dit-elle. N'allez pas douter de mon cœur, qui éprouve comme le vôtre le meilleur des sentiments qui puisse y pousser.
Dieu bon Merlor !»
Une vive rougeur monta au visage de Delphine, colora ses joues. Ses yeux se fermèrent et, vaincue par l'émotion, elle fut obligée de s'asseoir. Karl tomba devant elle, agenouillé. D'une voix éloquente qui la pénétrait tout entière, il lui tint ce langage d'amour qui, dans tous les temps, dans toutes les langues, est toujours le même. Il lui dit comment, en la voyant, il s'était senti foudroyé par sa beauté. Il ajouta que son amour n'était pas égoïste, que ses intentions étaient pures. Il ne voulait la tenir que d'elle-même, au moment où elle se croirait assez aimée, pour pouvoir s'unir à lui par les liens du mariage. Sur ce mot, Delphine, qui jusqu'à cet instant avait écouté Karl sans interrompre, l'arrêta.
« Mais ne suis-je pas folle de prêter l'oreille à vos discours ?» demanda-t-elle. « Vous parlez de mariage, mais avez-vous le droit d'en parler ?»«
Je dispose de ma destinée, mademoiselle. »
« Êtes-vous certain que votre père n'en a pas disposé déjà ? Vous êtes son unique héritier. Toutes ses espérances reposent sur vous. Peut-être a-t-il rêvé pour son fils une union digne de sa fortune ?»«
Bon, il ne m'en a jamais parlé. »«
Il peut vous en parler.
Bien, je lui dirai que je vous aime. Il ne veut que mon bonheur. »
« Sait-il que vous êtes ici ?»«
Oh non !» s'écria Karl avec un mouvement de crainte.
« Et vous voyez bien que vous lui cachez vos désirs. Pourquoi ? Si ce n'est que vous avez compris combien il vous sera difficile de le décider à laisser entrer dans sa famille une personne pauvre. »
« Quand il saura combien vous êtes intelligente, bonne, belle... » Quand il se sera convaincu que je vous aime avec toutes les forces de ma jeunesse et de mon cœur, il donnera son consentement.
Delphine secoua la tête et répondit.
Obtenez-le alors, avant de m'ouvrir ces horizons nouveaux qui naissent sous mes yeux, illuminés par les feux de votre amour. Vous voulez m'emporter dans des régions idéales et célestes, où le bonheur est à l'état permanent, parce qu'il est basé sur la tendresse infinie qui ne passe pas. Mais que deviendrai-je si vous m'abandonnez ?
Oh, jamais, jamais, s'écria Karl, sans vous je ne saurais vivre. Vous avez pris possession de moi.
Ces paroles étaient empreintes d'un accent de conviction et de sincérité qui frappa Delphine. Aussi, après avoir laissé son amie parlait longtemps, elle laissa tomber sa main dans la sienne et dit
« Je vous engage ma foi, soyez sûr de votre fiancé, quand vous me voudrez, vous me trouverez. »
C'est ainsi qu'ils s'engagèrent l'un à l'autre, et lorsque Karl se retira, ce fut après avoir promis de revenir le lendemain et tous les jours. Delphine fut d'abord effrayée par l'excès même de son bonheur, dont elle ne se fit pas part à son père, n'ayant pas encore la certitude que de si belles promesses se réaliseraient. Elle n'osait croire que, comme sous l'empire d'une baguette magique, sa vie pouvait se transformer, ainsi qu'on le lui laissait espérer, et que, condamnée hier encore à la médiocrité, elle était en droit de se voir, dans un avenir peut-être prochain,
à la tête d'une des plus opulentes maisons de Paris, épouse légitime et aimée d'un homme auquel bien peu de femmes auraient pu résister. Cependant, lorsqu'elle revit Karl, que chaque jour amenait auprès d'elle, et qui, sous le prétexte de suivre les préparatifs des expériences promises par Martial Vaubert, venait sans cesse renouveler ses serments, elle fut gagnée peu à peu par la confiance qu'exprimait son ami. Elle ouvrit à ses propos une oreille complaisante, et elle ne douta plus de ses paroles, lorsqu'il disait qu'avant peu, tous les obstacles qui s'opposaient à leur union seraient vaincus. Il parlait de bonne foi, mais il comptait sans l'imprévu, qui tient tant de place dans les affaires humaines. Cette idylle charmante durait depuis un mois environ, lorsque Jacques Savaron la découvrit. Il avait remarqué dans le caractère de son fils un changement qui le frappa. Jusqu'à ce jour, Karl s'était montré plein d'ardeur pour les plaisirs de son âge, d'une gaieté entraînante, aimant le monde, le théâtre, se mêlant volontiers aux parties fines sur lesquelles son père fermait les yeux, sans cesser cependant de le surveiller. Et tout à coup, il devint paisible, mélancolique, préoccupé. Jacques Savaron devina qu'il y avait quelque passion sous roche, et comme il ne lui convenait pas que son fils s'engageât dans des liens sérieux sans son consentement, il se mit à veiller sur lui avec plus de soin encore que par le passé. Sa surveillance le mit en quelques jours au courant de la vérité. Il fit suivre Karl et sut qu'il se rendait tous les jours dans une modeste maison des Batignolles, habitée par un vieillard et sa fille. Puis il sut que ce vieillard, qui se nommait Martial Vaubert, avait touché à la caisse à diverses reprises une somme totale de 15 000 francs portée au compte de Karl par les ordres de ce dernier. Dès lors, il ne lui fut pas difficile de reconstruire ce joli roman. L'ayant découvert, il résolut sur le champ de le détruire. Karl, amoureux d'une fille pauvre, c'était l'anéantissement d'un projet longtemps caressé par Jacques Savaron, qui consistait à donner pour femme à son fils l'unique héritière d'un riche banquier, laquelle était à la veille d'atteindre sa 18e année et qui devait apporter à la maison Savaron une fortune égale à celle qui s'y trouvait déjà. Jacques Savaron n'hésita pas. C'était, nous l'avons dit, un homme ferme, énergique, tout d'une pièce, dont la volonté ne se modifiait jamais. Au risque de briser le cœur de son fils, d'exposer sa santé, sa vie à des périls incessants, sans chercher à savoir si la jeune fille choisie par Karl était belle, intelligente, honorable, il avait pris le parti d'envoyer aux Indes le pauvre garçon, afin de rester libre de dénouer ses liens dont il ne voulait à aucun prix. On a vu au début de ce récit comment Jacques Savaron avait signifié sa résolution à son fils et comment ce dernier fut entraîné à lui révéler le secret qu'il cachait depuis un mois. Il raconta l'histoire de ses amours en termes émus. Il fit à son père le portrait de Delphine, lui dépeignit l'état de son cœur et termina sa narration, qui n'apprenait à Jacques Savaron rien, car il le connut déjà par ses mots. « je l'aime en mourir, si vous me séparez d'elle. »« Tout ce que tu viens de me dire est fort touchant, » répondit le banquier, qui prenait le parti de feindre avant d'avoir raison de la résistance de son fils. « Mais encore une fois, je ne comprends rien à ton désespoir. »
« Mais quoi, mon père, abandonner Delphine ?»«
Il ne s'agit pas de l'abandonner. » Il s'agit de faire un voyage de 3 mois qui, loin d'atteindre votre amour, le fortifiera si vraiment il est autre chose qu'un entraînement de vos jeunes imaginations.
Mais il est de ceux qu'on ne détruit pas, s'écria Karl.
Mais qu'avez-vous donc à redouter d'une séparation momentanée? T'ai-je dit que je m'opposais à ce mariage?
Vous consentiriez? Mais assurément, si cette jeune fille est honorable, si son père est digne de nous.
Oh, que vous êtes bon, mais alors, je peux aller lui dire.
Jacques Savaron interrompit son fils.
Non, tu n'as plus le temps d'y aller, je te demande encore ce sacrifice. Écris, annonce mon consentement conditionnel, et la célébration du mariage à ton retour, si, comme je l'espère, j'ai reconnu dans Mademoiselle Vaubert les vertus que j'ai le droit d'exiger dans la femme de mon fils.
Karl, croyant à la sincérité de son père, ne pouvait hésiter. Il venait d'obtenir, au prix d'un éloignement dont il se promettait d'abréger la terme, un consentement qu'une heure auparavant il n'espérait pas. Aussi, tout en regrettant de ne pouvoir faire ses adieux à Delphine, il ne se préoccupait plus que de se montrer docile, afin de ne pas aliéner la bonne volonté que son père témoignait. « J'obéis, dit-il. Je pars sans regret, avec l'assurance qu'à mon retour, vous aurez acquis la conviction que l'union que je désire donnera à notre famille une femme bonne et belle destinée à vous faire honneur. Je vais lui écrire et lui dire qu'enfin, de savoir si nous nous aimons, vous avez voulu nous soumettre à une épreuve, laquelle est une séparation de quelques mois. » Son père, l'ayant approuvé, il commença à écrire une longue, bien longue lettre, et il faisait connaître à Delphine le langage de M. Savaron. Puis il annonçait avec ménagement son départ précipité. Il ajoutait, ce qui devait atténuer singulièrement le chagrin de Delphine, que, en son absence, elle pourrait, avec son père, se présenter à l'hôtel Savaron, assurée d'y être bien reçue. « Avant de vous appeler sa fille, disait-il, mon père veut apprendre à vous connaître. Venez donc le voir souvent. Accoutumez-vous à l'aimer. Que votre tendresse, pendant que je serai loin, remplace la mienne auprès de lui. » Puis, lorsqu'il eut terminé, et croyant n'être pas vu, il embrassa frénétiquement ce papier mouillé de larmes qui devait porter à Delphine une preuve nouvelle de son amour. « Voici ma lettre, mon père, dit-il. »« Confie-la moi, répondit Jacques Savaron. Je l'enverrai. Il faut épargner à notre fillette une mauvaise nuit, qu'elle passerait à pleurer sur toi. Et puis, qui sait, peut-être demain, dès le matin, irai-je moi-même lui apporter tes adieux. »
« Oh, mon père, combien je vous aime !» s'écria le passionné jeune homme, dupe de la bonhomie apparente de Jacques Savaron. Il lui sauta au cou, l'embrassa tendrement et ajouta « Bon, mais maintenant me voilà prêt à partir. Désireux de m'acquitter avec succès de la mission que vous me confiez et de revenir au plus tôt, car le bonheur, mon père, il est ici, vous le savez bien. » Après ces paroles, heureux d'avoir obtenu ce consentement paternel, auquel il n'osait croire encore, tant il en avait douté, il alla s'occuper lui-même des préparatifs de son départ. La perspective de ce lointain voyage ne l'épouvantait plus, parce qu'il voyait dans un avenir prochain ses vœux couronnés. 2 heures plus tard, il quittait Paris. Précaution ou tendresse, son père avait voulu l'accompagner au chemin de fer, et ne quitta la gare qu'après avoir vu partir le train qui emportait son fils vers Marseille. Il revint alors vers sa demeure et s'enferma chez lui, après avoir donné l'ordre à ses domestiques de ne recevoir personne. La nuit était venue. La chambre dans laquelle il se trouvait était vaste, éclairée en ce moment par 2 lampes à globe, posées sur une table, et chauffé par un grand feu qui dansait capricieusement dans la cheminée. Il était triste, le vieux Jacques Savaron. Sa tête reposait lourdement dans ses mains, et c'est en vain qu'il s'efforçait d'arrêter quelques larmes qui passaient à travers les cils de ses yeux fermés. Il était triste parce que son fils venait de partir, et peut-être aussi
parce qu'il se trouvait cruel et stupide d'avoir sacrifié à une ambition folle de richesses nouvelles le bonheur de son enfant et son propre bonheur. Mais cet accès de faiblesse dura peu. Il secoua son front comme s'il eût voulu éloigner de son esprit ses idées qui le troublaient, et bientôt le vieil homme, le despote, tout d'une pièce, reparut. Il avait promis, en l'absence de son fils, de veiller sur le repos de Delphine, de la recevoir. Il s'était engagé à lui transmettre la lettre éloquente, passionnée par laquelle Karl expliquait les causes de son départ et annonçait les bonnes dispositions de son père. Mais il était résolu à ne tenir aucune de ses promesses. Il les avait faites uniquement dans le but de calmer les défiances de son fils et de le voir s'éloigner heureux. Une fois seul, il relut l'épître amoureuse dans laquelle Karl en renvoyait de tendres adieux à Delphine, et il ne fut touché ni par la pureté de ses sentiments qui étaient tout à la gloire de celle qui les avait inspirés, ni par cet enthousiasme d'un amour qui semblait prêt à tous les héroïsmes. Il sourit amèrement, roula pendant quelques instants entre ses doigts maigres ce papier auquel son fils avait confié ses impressions dernières, puis d'un mouvement fiévreux, il le lança dans les flammes qui le dévorèrent en un instant. Après, Jacques Savaron se leva. Les mains derrière le dos, il se mit à marcher dans la chambre, faisant crier sous ses pieds le parquet recouvert d'un épais tapis. L'absence de Karl, pensait-il, guérira cette jeune fille, à supposer qu'il n'y ait pas de sa part plus d'ambition que d'amour. Oh, il en voudra mortellement à celui qui, après lui avoir adressé des déclarations passionnées, s'éloigne d'elle sans même lui dire adieu. Et dans sa colère, son amour sombrera. Sa destinée suivra d'autres cours, et je veillerai d'ailleurs à ce qu'aucune relation ne puisse se nouer entre eux. Il entendait par là qu'il prendrait ses précautions, afin qu'aucune lettre de Karl, s'il écrivait directement à Delphine, ne put arriver à la jeune fille. « Quant à mon fils, disait-il encore, il y a lieu de penser que le long voyage qu'il entreprend et que je ferai durer autant que cela sera nécessaire lui apportera l'oubli. Si d'ailleurs il n'oubliait pas, lorsqu'à son retour je lui apprendrai que cette jeune fille ne songe plus à lui, il ne fera pour la revoir aucune tentative. Oui, mais si ton fils n'allait pas revenir, murmura dans sa conscience une voix mystérieuse qui le fit tressaillir. J'y suis bien allé, moi. J'en suis revenu, s'écria-t-il. Il s'assit devant son bureau et écrivit à Martial Beaumère la lettre suivante. Monsieur, j'ai dû blâmer sévèrement mon fils pour la précipitation et la légèreté avec lesquelles, dans le but de vous être agréable, et sans avoir sollicité mon autorisation, il vous a fait ouvrir un crédit dans ma maison de banque. Je ne l'y avais nullement autorisé. Et si j'avais été consulté, j'aurais refusé, n'ayant ni la volonté ni l'habitude de commanditer des entreprises aussi aléatoires que celles dont vous poursuivez la réussite. Je me vois donc obligé, à mon grand regret, de cesser dès à présent les versements qui vous étaient faits au nom de mon fils. J'ai vu par les livres de ma caisse que vous avez reçu 15 000 francs. Permettez-moi de vous offrir cette somme comme un encouragement tout personnel donné à vos savantes expériences et comme un dédommagement qui vous consolera, je l'espère, de la décision que je suis obligé de prendre. Cette lettre écrite, Jacques Savaron alla se mettre au lit. Le lendemain, dès 7 heures du matin, le banquier gravissait les hauteurs qui conduisent de la rue Lafitte au Batignolles. Il n'avait voulu confier à personne le soin de déposer sa lettre au domicile de Martial Vaubert.
Et puis, il s'était mis en tête d'intercepter celle que son fils quierait à Delphine. Il voulait que la jeune fille n'entendît jamais plus parler de Karl. Cela a été nécessaire à ses projets, et il se rendait lui-même sur les lieux où elle était, afin d'organiser le silence autour d'elle. Martial Vaubert et sa fille habitaient une rue calme et modeste. Ils avaient trouvé, dans une maison assez vaste, un petit logement simple et agréable à la fois. Au moment où Jacques Savaron arrivait devant leur demeure, une vieille femme, dans laquelle il n'eut aucune peine à deviner la concierge, se tenait debout sur le seuil, mélancoliquement accordée sur le manche d'un balai oisif entre ses mains. « C'est bien ici que demeure M. Martial Vaubert ?» demanda le banquier. « Au troisième étage, la porte à gauche, » répondit la vieille femme sans se déranger et avec un accent qui prouvait qu'elle tenait son locataire en meilleure considération. « Alors, je ne veux pas monter chez lui, madame, mais seulement vous priez de lui remettre cette lettre. Il n'y a pas de réponse. » En parlant ainsi, Jacques Savaron tendait à la portière sa lettre au-dessus de laquelle elle vit briller une belle pièce de 5 francs en argent. « J'y cours, monsieur, j'y cours !» s'écria-t-elle, ramenée subitement à la réalité par le gain matinal qui lui arrivait. Elle avait pris la lettre et l'argent. Elle allait s'éloigner. « Un instant !» dit Jacques Savaron en la retenant. Rien ne presse. Tout aux ordres de monsieur, reprit-elle obséquieusement. Comment vous nomme-t-on? À cette question, dont elle ne s'expliquait ni le but ni la cause, elle le regarda et s'aperçut alors qu'il avait la mise d'un homme riche. On me nomme la veuve Picard, dit-elle sans hésiter. « Eh bien, madame Picard, je voudrais, avant que vous me montiez la lettre chez M. Martial Vaubert, causer quelques instants avec vous. Alors, si monsieur veut entrer dans la loge... » Il la suivit et bientôt ils se trouvèrent dans une petite chambre où personne ne pouvait surprendre leur entretien. Jacques Savaron s'expliqua comme suit. Vous ne me connaissez pas, il est inutile que vous me connaissiez, si nous ne devons pas nous entendre pour ce que j'ai à vous proposer. Mais nous entendrons, répliqua la veuve Picard, sans savoir de quoi il s'agissait, mais pressentant instinctivement que ce ne pouvait être que d'une bonne affaire. Je l'espère, oui. J'ai un service à vous demander, et j'entends le bien payer. Parlez, monsieur, parlez. Monsieur Martial Vaubert a une fille. Oui, mademoiselle Delphine, oh, un beau brin, ma foi, mais un peu fier. Oh, ces gens-là, ça n'a pas le sou. Le père est un vieux fou. Depuis un mois environ, un jeune homme vient voir mademoiselle Delphine, interrompit Jacques Savaron. Ah oui, monsieur Karl. Oh, il paraît qu'il est très riche. Il vient des fêtes tous les jours, mais à dire vrai, je crois que c'est en tout bien tout honneur. Oh, moi, j'en suis sûr, mais il ne s'agit pas de cela. Ce jeune homme ne viendra plus. Oh, mon Dieu, lui serait-il arrivé malheur? Non, non, oui, il est parti. Je suis son père. Il ne pouvait me convenir qu'il épousât mademoiselle Vaubert. Il ne la reverra plus. Ces pauvres jeunes gens, ils vont être bien malheureux. Mais enfin, puisque monsieur est le père, il est le maître, n'est-ce pas? Et quel est le service? Oh, c'est très simple. Je ne veux pas que mon fils écrive à mon insu à cette demoiselle. Il faudrait donc me remettre toutes les lettres qui arriveront ici pour les Vaubert. Je les lirai, je garderai celles de mon fils, je vous rendrai les autres, sans qu'on puisse s'apercevoir d'ailleurs qu'elles ont été décachetées. « Mais c'est un vol que vous me proposez !» s'écria la veuve Picard. D'un geste, Jacques Savaron lui imposa silence. Ne criez donc pas, dit-il. Non, non, ce n'est pas un vol, puisqu'il ne s'agit que de m'aider à surveiller mon fils, sur lequel j'ai bien quelques droits, et de l'empêcher de me désobéir. Voici mes conditions. Toutes les fois qu'une lettre arrivera ici, vous me l'apporterez. Dès à présent, je vous assure, pour chacune de celles que vous me remettrez, 100 francs. Et lorsque je n'aurai plus besoin de vos services, vous continuerez à recevoir de moi une rente annuelle de 600 francs. La veuve Picard ouvrait ses yeux démesurément et la surprise la rendait stupide. Jacques Savaron continua. Comprenez bien ceci. C'est à une bonne action que vous vous associez. Seulement, je vous avertis que si vous communiquez à qui que ce soit notre convention, si vous parlez du service que vous me rendez, si enfin, par suite de votre négligence, une seule lettre de mon fils arrive dans les mains de Mademoiselle Delphine, adieu la rente viagère de 600 francs. Je ferai mes efforts pour justifier la confiance de monsieur, répondit la veuve Picard, laquelle, en sa qualité d'ancienne femme de chambre, comprenait à demi-mot. Je me nomme Jacques Savaron, je suis banquier rue Lafitte. Quand vous aurez à me parler, vous viendrez le matin. Vous demanderez Monsieur Henri, c'est mon valet de chambre. Il aura des ordres pour vous introduire auprès de moi. La veuve Picard s'inclina, tandis que le banquier glissait dans sa main 5 louis en disant « Voici des arts, et maintenant vous pouvez monter cette lettre. » Vous direz qu'elle vient d'être apportée par un commissionnaire. » Jacques Savaron, ayant ainsi donné ses ordres, s'éloigna à grands pas. Sa lettre tomba comme la foudre dans la maison de Martial Vaubert. Delphine attendait la visite de son ami qui, la veille, en la quittant, avait dit qu'il reviendrait le lendemain. Tout d'abord, elle ne s'expliqua pas d'une manière trop inquiétante le rapport qu'il pouvait y avoir entre l'amour du fils et la lettre du père. Elle savait que l'argent prêté à son père par Karl l'était à l'insu de M. Jacques Savaron. Elle crut que ce dernier, après avoir blâmé son fils, écrivait pour faire connaître sa volonté, mais qu'il n'y avait rien là qui menaçât leur amour. Elle pensait au contraire que Karl ferait savoir à son père qu'il était amoureux d'elle et que le banquier serait désolé d'avoir usé d'un procédé aussi brutal qu'injuste. Le sentiment de Martial Vaubert se rapprocha davantage de la vérité. Tout entier à ses études, il ne connaissait rien de l'idylle dont sa maison était le théâtre. Il ne savait pas à quel mobile Karl Savaron avait obéi en lui venant en aide. Mais il comprit, par le désaveu que le banquier infligeait à son fils, qu'il devait renoncer à continuer l'entreprise commencée. « Ainsi, disait-il, tenant dans ses mains tremblantes cette fatale lettre, j'aurai touché du doigt le succès, et lorsque je vais l'atteindre, c'est à ce moment-là qu'on brise l'instrument qui devait me le donner. » Et des larmes roulèrent de ses yeux sur ses joues ridées. Sa fille le rassura, le consola, releva son courage. Elle était forte de son amour. Elle se disait que, quels que fussent les desseins de Jacques Savaron, elle disposait de Karl. Elle s'attendait à le voir venir le même jour. Elle lui raconterait ce qui venait de se passer, et ensemble ils arrêteraient un plan afin que Martial Vaubert puis continuer à s'occuper en repos de ses inventions, qui ne devaient pas être bien coûteuses après tout, vu la lenteur avec laquelle ses travaux étaient condamnés à marcher. « Vous avez tort de vous alarmer, mon père, » dit-elle au pauvre vieux qui se lamentait. « Monsieur Jacques Savaron refuse de vous aider de son argent. Eh bien, monsieur Karl vous aidera, lui. Je réponds de sa bonne volonté. » « Allez le voir !» Elle envoyait son père auprès de Karl, n'osant avouer qu'elle l'attendait. Tu as raison, ma fille, reprit Martial Vaubert, à qui ces paroles ouvraient une espérance nouvelle. J'y cours, oh, je saurai dans quels instants à quoi m'en tenir.
Delphine attendit impatiemment son retour, non qu'elle pût douter de Karl, mais parce qu'elle avait hâte de connaître la cause des obstacles imprévus dont la lettre du banquier Savaron révélait l'existence. Son attente dura une heure environ. Enfin, de la croisée, elle vit au bout de la rue apparaître son père. À la façon dont il marchait, à la tristesse profonde de sa physionomie, elle devina qu'il apportait de tristes nouvelles. Effrayée, elle se demanda quel allait être son sort. Elle s'avança jusque sur le palier de l'escalier, au-devant de Martin Vaubert, qui montait lentement, comme écrasé sous le poids de son chagrin.
« Eh bien, mon père, demanda-t-elle, avez-vous vu M. Karl Savaron ?»«
Non, je ne l'ai pas vu. »
« Et son père ?»«
Son père non plus. »«
Mais ne vous a-t-on pas dit de retourner ?»«
Bon, qu'est-ce qu'elle a pu me fournir aucun renseignement ?»« Et tout aimable, il y a 8 jours à peine, il m'a traité presque durement. »
Delphine devenait très pâle.
Mais comment n'avez-vous pas insisté pour parler à M. Karl ?»
« Monsieur Karl, s'écria le professeur, mais puisque je te dis qu'il est parti. »«
Parti ?»«
Oui, voilà, je suis par le Suisse de l'hôtel que le père était en cours depuis le matin. Quand mon fils, il a quitté Paris hier soir, afin d'aller à Marseille, où il doit s'embarquer pour les Indes. On ne sait pas combien de temps durera son absence. »
À cette nouvelle qui tomba sur son cœur avec la violence d'un coup terrible, Delphine ne put retenir un cri de détresse. Martial Vaubert, épouvanté, la regarda. Elle était pâle comme une morte. Ses jambes fléchissaient. Elle n'eut que le temps d'atteindre un fauteuil où elle tomba, privée de connaissance.
« Ma fille, ma fille !» s'écria Martial Vaubert en courant vers elle. Et tout à coup, se frappant le front, il ajouta, « Miséricorde, mais elle aimait ce Karl de malheur. Mais le misérable, il me la tue !»
Lorsqu'elle revint à elle, son père, penché sur son front, la regardait avec une tendresse inquiète, alarmée. Elle l'embrassa en disant,
« Ah, mon père, je suis bien malheureuse, mais ne l'accusez pas, lui. Il est innocent de mon malheur. Il m'aime, il a juré de m'épouser. C'est M. Jacques Savaron qui l'aura brusquement éloigné de moi. »
8 jours s'écoulèrent pendant lesquels Delphine refusa de croire que Karl avait pu quitter Paris sans lui adresser ses adieux. Dans ce départ précipité, au lendemain d'une entrevue qui marquait en quelque sorte les débuts de leur amour, elle pressentait un fait extraordinaire. Que Karl se fût éloigné brusquement, elle pouvait à la rigueur le comprendre. Mais qu'il eût gardé le silence envers elle, alors que la veille il s'était engagé par des serments passionnés et solennels à l'aimer toujours, c'était là un procédé tellement odieux qu'elle se persuadait aisément que son amie était victime d'un mystérieux incident dont, quelque jour, elle aurait le mot. Elle se rappela que Karl parlait de son père avec terreur, et peu à peu, son esprit arrivait à se rapprocher de la vérité. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que l'auteur de sa peine était le père de Karl. C'est lui, sans doute, qui avait précipité le départ de son fils et peut-être supprimé les lettres par lesquelles il expliquait à son ami les causes de ce départ. Lorsqu'elle eut acquis, à force d'y réfléchir, la conviction que les choses avaient dû se passer ainsi, son chagrin devint moins intense. non qu'elle cessât de souffrir cruellement de l'absence de Karl, mais parce qu'elle était disposée à croire qu'il n'avait voulu ni l'abandonner ni l'oublier. Un jour il reviendrait, le mystère serait dévoilé. Quelque consolante que fût cette pensée, elle ne suffisait pas toutefois à soulager la pauvre enfant. Malgré tout, et bien qu'elle essayât fréquemment de se fortifier par l'espérance, ses doutes reprenaient souvent toute leur violence. Peut-être s'est-il repenti de m'avoir promis sa main, et s'est-il éloigné afin de ne plus me revoir. Elle ne pouvait chasser loin de soi cette idée à laquelle, cependant, elle refusait de croire. « Non, 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 mais s'écriait-elle, c'est impossible. Il m'aime encore. » Son père l'aura obligé à partir, sans me dire adieu, et aura supprimé les lettres qu'il m'écrivait. Mais il ne m'oubliera pas, et je le reverrai. Cet espoir mettait un rayon dans ses yeux, mais soudain le doute apparaissait de nouveau. « Mais le reverrai-je ? » demandait-elle. Ses incertitudes altérèrent sa santé. Aux couleurs de son visage, la pâleur succéda. Sa beauté se revêtit d'un caractère mélancolique qui accrut le charme de sa physionomie, mais dont son père s'alarma. En quelques jours, le bonhomme avait changé du tout au tout. Ce n'était plus l'inventeur enthousiaste et puéril qui avait gaspillé sa fortune dans des expériences malheureuses. C'était un père tendre et prévenant, uniquement préoccupé de la santé de sa fille. Il la comblait de soins, il l'interrogeait avec sollicitude. Comme il devinait qu'elle s'efforçait de lui taire la vérité, il lui disait « Parle-moi avec franchise, je comprends bien que tu l'aies aimé. Il était charmant. » Mais il t'aime encore, j'en ai l'assurance. Il est parti contre son gré, j'en suis sûr, mais il reviendra et tu verras alors qu'il est toujours digne de toi. » Elle souriait pour le rassurer, mais elle avait l'âme déchirée par le doute. Les jours s'écoulaient lentement. La maison Vaubert devenait mortellement triste. On eût dit la maison des larmes. Les murs eux-mêmes semblaient avoir pris le deuil. Delphine, absorbée par son unique préoccupation, ne parlait plus. Son père passait ses journées à ses côtés, silencieux comme elle, suivant anxieusement sur son visage naguère joyeux les traces d'un mal dont il souffrait encore plus qu'elle. N'ayant d'autre désir que de la voir se rattacher à l'espérance et se soustraire à l'empire de son chagrin, il ne s'apercevait pas que lui-même ne tenait plus à la vie que par un souffle. La blessure qu'il avait reçue était plus profonde encore que celle de sa fille. Une nuit que Delphine, couchée, cherchait vainement le sommeil, et tentait d'apaiser les ardeurs de son cerveau, tout empli du souvenir de Karl, elle entendit son père pousser des gémissements. Elle se leva, passa dans la chambre voisine, courut auprès du lit sur lequel dormait Martial Vaubert. Le professeur se débattait contre la mort. Il avait été soudainement frappé. Ses mains amaigries pressaient convulsivement sa poitrine brûlante. Penchée sur lui, la tête perdue, Delphine appelait du secours. Elle entendait ces mots qui tombaient des lèvres du malade. « De l'air, mon cœur s'est gonflé, il va éclater !» Il se tordait avec des mouvements affreux. Elle le vit se roidir, pousser un grand cri, puis un soupir qui semblait venir des profondeurs de l'être et demeurait immobile. La vie venait d'abandonner brutalement cette enveloppe usée. Delphine était orpheline. Quand sa première douleur fut apaisée, elle eut un accès de colère et de rage. Mais pourquoi donc était-elle éprouvée ainsi? Mais quelle faute avait-elle commise qui mérita ce si rigoureux châtiment? Elle avait nourri des ambitions très hautes, souhaité la fortune, désiré l'existence opulente qui devait être le cadre de sa beauté. Et était-ce donc un si grand crime? Méritait-elle d'être doublement frappée dans son amour d'amante et dans son amour de fille? Qu'allait-elle devenir? En fouillant les tiroirs de son père, elle avait trouvé quelques billets de banque, quelques pièces d'or, de quoi vivre 6 mois. Et après, où irait-elle? À quelle porte irait-elle frapper? À quel travail demanderait-elle son pain? La pensée du suicide se présenta nettement formulée à son esprit. La mort, c'était le repos, le néant, la solution des difficultés violentes au milieu desquelles elle se débattait. « Non, ce n'est pas le néant !» murmura dans son âme une voix mystérieuse. Tous les souvenirs chrétiens de sa jeunesse montèrent à son cerveau comme un parfum. Dans une vision rapide, elle vit son enfance pieuse, ses ferveurs mystiques de jeune fille, leur ange chanteresse de sa première communion. Un rayon lumineux traversa son âme. « Mais le cloître !» s'écria-t-elle. La prière éternelle, le sacrifice constant, une marche rude mais prompte sur la route difficile qui conduit au ciel où son père l'attendait dans la contemplation de Dieu. Il y avait 15 jours que son père était mort. Vêtu de ses habits de deuil, l'orpheline traversa Paris pour se rendre dans un couvent de carmélites situé rue des Postes, non loin du Panthéon. Naguère, elle y était venue afin d'assister aux vœux d'une de ses amies d'enfance qu'une vocation irrésistible avait poussée vers le cloître. L'hospitalière maison s'ouvrit devant Delphine. Elle demanda à parler sur le champ à l'abbesse. Une femme, dont elle ne put voir les traits, se présenta devant elle. L'orpheline s'agenouilla, et d'un accent que brisaient les sanglots, elle dit « ma mère, j'ai souffert, je suis seule, abandonnée, ouvrez-moi votre couvent, je veux chercher l'oubli dans la prière. »« Venez, chère petite, » répondit d'une voix douce, tandis qu'elle se sentait soulevée et soutenue entre des bras maternels. Le même soir, elle put s'endormir dans une cellule, au sein d'un calme profond, troublée seulement par les monotones psalmodies des religieuses dans la chapelle du couvent. Elle se croyait destinée à la vie que menaient ces saintes femmes. Elle n'était venue parmi elles qu'après avoir réglé toutes ses affaires matérielles et dit adieu au monde, duquel elle n'avait reçu que des douleurs. Elle n'éprouvait qu'un désir, rester là, pleurer et prier. Mais le lendemain, elle fut dès le matin mandée chez l'abbesse, invitée par elle à raconter son histoire et les péripéties qui l'avaient conduite à 20 ans, en pleine jeunesse, à prendre cette extrême partie. Elle parla sans détour et fit connaître les événements parmi lesquels elle venait de passer. L'abbesse l'écouta sans l'interrompre. Mais lorsque le récit fut terminé, elle dit « Votre place n'est point ici, mon enfant. Une douleur violente vous y a conduite, mais vous ne sauriez y rester. Vous n'avez pas la vocation. Vous n'êtes pas faite pour nos austérités. Ce que vous avez pris pour une aspiration divine n'est que l'excès même de votre chagrin,
qui s'amoindrira, se dissipera, comme tous les chagrins de ce monde. »
Mais le monde m'est odieux, s'écria Delphine.
Est-ce à dire que le cloître puisse jamais vous devenir cher? Demanda l'abbesse.
Mais je vous en supplie, ma mère, ne me repoussez pas. Il ne me reste rien que votre protection.
Demeurez, mon enfant.
Vous vivrez parmi nos pensionnaires, des personnes qui cherchent la vérité de leur vocation. Oh, j'ai l'assurance que dans quelques jours, vous viendrez me manifester le désir de quitter cette maison. »
C'est ainsi que Delphine fut admise à voir de près la vie intérieure des religieuses carmélites. La règle des carmélites est austère. Le silence est de rigueur. Les vêtements sont grossiers, les aliments répugnants. On ne dort que quelques heures. Le temps est partagé entre la méditation et la prière. Delphine vit des jeunes femmes brisées par les mortifications, le cilice et le jeûne, marcher lentement comme épuisées, inclinées vers la terre. Ces corps à moitié anéantis n'étaient plus soutenus que par l'âme, que des espérances divines emportaient vers les régions idéales qui contiennent l'éternelle vie. Delphine toucha des plaies profondes. Elle constata des regrets cuisants. Elle vit plus d'une de ces créatures qu'emprisonnaient des vœux imprudents, aspirer à la liberté. Elle eut peur, et un jour elle dit à l'abbesse :
« Oui, vous avez raison, ma mère, je ne resterai pas. J'aime mieux gagner durement mon pain, dévorer mes larmes que de me livrer au calme qu'on goûte ici. Oui, le prix en est trop haut pour moi. »
L'abbesse s'attendait à cette déclaration, mais elle portait déjà un vif intérêt à l'orpheline. Elle ne voulait pas la livrer au mauvais conseil de la misère. Elle s'était occupée à lui trouver du pain honorablement gagné. Il s'agissait de se consacrer à l'éducation d'une fillette de 8 ans, Claire de Morangis, qui vivait dans un château sur la côte normande, avec son frère de 2 années plus âgé qu'elle, et son père, un homme jeune encore, qui pleurait la mère de ses enfants. Il y avait aussi dans cette maison un vieux prêtre, l'aîné du marquis de Morangis. C'est lui qui s'était adressé à l'abbesse des Carmélites afin qu'on l'aidât à trouver une institutrice pour sa nièce. Tous ces détails furent donnés par l'abbesse à Delphine, qui les écouta avec recueillement et répondit : «
Je suis prête à partir. »